Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h03 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et on est ensemble jusqu'à 15h avec autour de la table aujourd'hui Rémi Barré, Daniel Riolo, Benjamin Muller et Robert Sebag. On vous attend également nombreux au 32-16 pour réagir à l'arrivée du panier anti-inflation du gouvernement. Est-ce une mesure gadget ou nécessaire? Vous pouvez également nous écrire sur l'application RMC rubrique direct studio. 13h30 ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h45 la minute conso avec Paul Lassen et on vous dira comment racheter des trimestres pour partir plus tôt à la retraite. À 14h, à 5 jours de la Saint-Valentin, un tiers des Français en couple ne vivent pas sous le même toit. Faut-il vivre séparé pour être heureux? Dites-nous ce que vous en pensez et puis dites-nous également ce que vous vivez. C'est mieux de ne pas vivre justement aux côtés de votre conjoint ou de votre conjointe. 14h30, ce sera RMC s'engage pour vous et on va se mobiliser vraiment pour aider Olivier. C'est un auditeur qui ne peut plus se chauffer ou s'éclairer depuis 3 ans à cause d'une erreur administrative. Il y aura bien sûr les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et puis si vous ne savez pas quoi faire le 14 février, eh bien, vous pouvez aller assister à un match de foot exceptionnel grâce à RMC.
Exactement, nous vous faisons gagner les toutes dernières places pour le choc PSG-Bayern sur les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Tu l'as dit Estelle, ce sera le 14 février. Vous restez bien à l'écoute toute la journée sur RMC. Et dès que vous entendrez ça, vous aurez alors 5 minutes pour vous inscrire en envoyant le mot foot par SMS au 732-16. Foot par SMS au 732-16. Restez bien à l'écoute d'RMC, ça peut tomber à tout moment.
RMC, Estelle Midi.
13h05 sur RMC et on va s'intéresser dans Estelle Midi à l'arrivée du jour et c'est celle du panier anti-inflation du gouvernement. Le dispositif devrait être mis en place dans un mois et concernera 50 produits du quotidien dont les prix seront réduits. Mais Rémi, quels sont ces produits et est-ce qu'ils seront vraiment moins chers?
Alors, on en sait un tout petit peu plus sur ce panier anti-inflation, sur l'idée lancée en janvier dernier par Olivia Grégoire, la ministre déléguée au commerce à l'époque. Son objectif, c'était de faire en sorte que les Français puissent avoir sur un panier du quotidien des prix attractifs. Et pour cela, la ministre souhaitait que les distributeurs Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U, Auchan, Lidl et Aldi s'entendent sur une liste de produits de première nécessité et en fixent un prix équivalent d'une grande surface à l'autre. Au final, d'après le journal Le Parisien paru ce matin, après d'âpres négociations, le panier devrait comporter au moins 5 fruits et légumes, dont 3 bio, 2 féculents, de la viande rouge ou blanche, dont au moins une labellisée, du poisson, mais aussi des produits d'hygiène dentaire. En revanche, pas d'alcool, pas de confiserie.
Non, mais
on parlera peut-être tout à l'heure de Super U qui propose un panier anti-inflation, alors, qui est différent de celui du gouvernement.
Il y a 150 produits,
mais enfin, il y a 8, notamment 8 alcools.
Bon, bref. Oh.
Il y a des bonbons.
C'est le choix, quoi.
Bref, on va en parler tout à l'heure, mais en tout cas, là,
c'est
le panier anti-inflation voulu par le gouvernement, pas d'alcool, pas de confiserie. La liste définitive sera connue dans les prochains jours. Au cabinet du ministre, on assure que ce n'est pas un panier au rabais avec des produits vendus à prix cassé, mais un panier de qualité avec un intérêt aussi pour la santé. Donc ça, c'est pour le contenu, qui reste encore à définir, mais on voit l'idée générale. En revanche, un encadrement suffisamment souple est laissé aux distributeurs sur le prix. Ils gardent la main sur les prix, contrairement à ce qui avait été envisagé dans un premier temps, parce que là, ça ne passait pas. Sur le contenu, ils ont réussi à négocier. En revanche, sur un prix fixe.
Et tu as des détails sur le qui?
Qui? Ah bah pour l'instant, justement, il y a un certain nombre de distributeurs qui sont engagés, notamment Leclerc, Lidl aussi.
Lidl et Super U.
Mais alors, il y en a d'autres.
C'est pas ça le qui?
Et Super U.
Qui quoi? Qui pour en bénéficier?
Et tout le monde.
Moi.
C'est un panier, c'est dans le rayon, t'as de la farine, tu la prends, et voilà.
Et je disais pour les distributeurs,
le caddie est rempli.
Certains interrogés par le Parisien ce matin, je parlais des distributeurs, Auchan notamment dit que pour l'instant ils n'ont pas encore eu de contact définitif, en tout cas il n'y a pas eu d'accord définitif de signer avec le gouvernement.
Alors, ce panier anti-inflation du gouvernement, est-ce que c'est une mesure gadget ou au contraire une mesure nécessaire, Benjamin Muller?
Eh ben imaginez s'il faisait rien, s'il proposait rien, qu'est-ce qu'on dirait? Évidemment que c'est nécessaire. Je veux dire, il y a l'inflation qui augmente, tout le monde hurle à juste titre. titre que le caddie coûte de plus en plus cher. Et évidemment que le gouvernement a raison de se mobiliser. Ce qui me fait marrer, moi, c'est de voir les réactions des distributeurs. Globalement, ils traînent tous des pieds, ils disent tous, attendez, on vous a pas attendu pour faire notre panier et tout. Quand vous regardez dans le détail les paniers de Leclerc, etc., en fait, vous économisez quelques centimes qui vont sur les cartes de fidélité. Donc, en fait, ils s'y retrouvent complètement. Et c'est pas du tout un véritable bouclier tarifaire au sens où le gouvernement veut le mettre en place. Donc, je comprends qu'ils tirent un peu la gueule les distributeurs, parce que eux, pour le coup, vont perdre un petit peu d'argent.
Oh, mais, mince alors.
Oui, mais mince. Oh là là. Et je veux dire, en fait, ils maîtrisent pas la com du truc. Là où d'habitude ils aiment, je veux dire, Michel-Edouard Leclerc, dès qu'il annonce la moindre réduction de 2 centimes, il fait la tournée des plateaux, il prend sa cape de super-héros du pouvoir d'achat. Là, c'est plus embêtant parce qu'en fait, si tous tombent d'accord pour réduire le prix des pâtes, de la viande rouge et des légumes bio, eh ben, il y a personne qui tirera son épingle du jeu. Ouais. Et donc, évidemment que ça va dans le bon sens. Évidemment que c'est une bonne chose.
Ben, vous avez posé la question gadget ou nécessité. Ouais. Moi, je vais vous dire les deux, mais en général. J'ai regardé la définition du gadget. Mmh. Un gadget, c'est un objet souvent ingénieux, mais presque toujours inutile à long terme. Alors, on espère d'abord que l'inflation n'est pas à long terme et qu'elle devrait diminuer.
C'est pas du tout ce qu'on prévoit. Hein. C'est-à-dire que là, il y a eu un fléchissement de l'inflation, mais il y a des négociations entre producteurs et distributeurs actuellement. Et à partir de mars, les prix de l'alimentaire vont repartir à la hausse.
20 et 40% de
nécessité, oui. Mais alors, la nécessité, il y a des personnes pour qui c'est réellement une nécessité. Ben voilà. Là, on a globalisé. Il y a des gens pour qui ça ne fait absolument rien. Après, les questions, c'est quoi la réalité économique? Moi, j'ai envie de savoir si vraiment le prix qui donne dans ce kit, c'est un prix plancher réel. C'est que, alors, la loi Egalim qui demande de ne pas vendre à perte. Est-ce que là, ils vendent à perte? Alors, les industriels, ils font quoi? Alors, d'abord, les distributeurs, c'est quoi leur rôle? Les agriculteurs, est-ce qu'ils vont pas en payer le prix? Et les industriels. Donc là-dessus, il faut quand même se poser des questions. Et puis les autres et tout le reste. Une fois que vous avez mis ce paquet, alors là j'ai vu que
50 produits, c'est pas tous des produits de la même famille. T'as de quoi faire tes.
Mais d'abord, mais ça dure combien de temps? Combien de temps avec ces produits pour une famille de 4 enfants? Après, on dit un produit labellisé sur 2. Alors celui qui n'est pas labellisé, c'est quoi?
Il reste au prix normal. Si t'achètes des yaourts,
sur le bio et tout ça.
Non, dans les 50,
si t'achètes un yaourt normal, nature, là, il sera dans ton panier, machin. Si tu veux continuer à manger tes yaourts islandais, bon, bah, ils seront pas dans le panier anti-inflation. Donc, tu continueras à payer tes yaourts 5 euros, alors que celui qui sera dans le panier inflation coûtera 1 euro.
On laisse le choix aux gens d'avoir des produits de première nécessité, comme on dit, de base. Fixe, sans prix réduit, voilà.
Mais ça pose le problème de la discrimination, parce qu'évidemment, les gens riches, ils vont continuer à acheter leur yaourt islandais.
Mais oui, mais ça, c'est global.
Tu vas aller voir à la caisse et tu verras quel produit ils ont pris, et donc tu verras qui est pauvre et qui est riche.
Est-ce qu'on a la réalité des prix qu'il y a dans ce panier?
Pour l'instant, non.
Je sais pas si.
C'est là où la notion de gadget intervient.
Oui, mais tu connais peut-être, Robert, dans tous les supermarchés, aujourd'hui, il y a toujours un rayon fruits et légumes où il y a des fruits et légumes à 99 centimes. Ça, c'est un accord qui avait été passé à l'époque avec le gouvernement, le ministère de la Santé, pour que chaque Français, quels que soient ses revenus, puisse accéder au moins à des fruits et à des légumes à 99 centimes. Ça sera le même principe. C'est-à-dire qu'il y aura des produits de base auxquels pourront accéder...
Sans obligation.
Les fruits et légumes à 99 centimes, t'es pas obligé de les acheter.
Daniel Riolo, est-ce que le gouvernement aurait mieux fait de cibler les plus modestes plutôt que de mettre 50 produits pour tout le monde, en fait?
C'est difficile, après le seuil. Hein.
Ouais. Écoute, moi, je me demande si c'est le rôle de... Alors. Dans cette période d'inflation, on peut quand même dire que le gouvernement a beaucoup fait et a essayé de répondre aux besoins des Français en inventant pas mal de choses. Ça tournait un peu autour des chèques. Bon, bref, on en a beaucoup parlé. Maintenant, on arrive avec ce panier gadget. J'aurais une petite tendance quand même à filer du côté de Robert là-dessus. Est-ce que c'est le rôle de l'État d'aller faire le caddie maintenant, sachant... Les distributeurs l'ont dit, Benjamin, je trouve un petit peu sévère quand les distributeurs disent, après tout, on va pas nous apprendre à faire notre métier parce que nous-mêmes, on répond à l'inflation. Et comme tu l'as dit, d'ailleurs, même sur les plateaux télé, certains comme Michel-Edouard Leclerc, ils vont pour dire, regardez ce qu'on fait. Mais Leclerc, c'est déjà une grande surface, je vais pas dire haut de gamme, mais qui a pignon sur rue. Mais le discount et le hard discount pour les familles qui ont pas beaucoup de moyens, ça existe déjà. Et la discrimination, excuse-moi Estelle, dans ces cas-là, tu vas pas te mettre devant l'entrée d'un hard discounter ou d'un machin pour dire, ah bah toi, si tu rentres là-dedans, c'est-à-dire que t'es pauvre, hein. Bah, écoute. On n'a pas à avoir honte de ce qu'on est.
Bien sûr.
Quand tu vas chez Lidl, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es pauvre. C'est devenu branché d'aller chez Lidl maintenant, il paraît. Donc bon, bah, d'ailleurs, tu vas pouvoir y aller, hein, chez Lidl. T'as qu'à aimer les yaourts islandais, je suis sûr qu'ils en font là-bas.
Je n'aime pas les yaourts islandais. Ah, je ne mange
t'en as parlé, c'est que je te voyais bien avec ton pot islandais, toi.
Pas du tout. Je ne mange que les yaourts islandais.
Je trouve que ça tourne un petit peu au gadget, cette affaire-là. Il y a des distributeurs qui répondent aux besoins de ceux qui en ont... Qui ont moins de moyens, avec des caddies qui sont moins chers. Le hard discount, ça existe depuis des années maintenant dans tous les pays. Je pense que les distributeurs répondent déjà. Après, on pourrait parler des marges qu'ils font et de ça.
Enfin, non, mais bon, il y a les industriels.
Je pense qu'il y a quand même une réponse à l'inflation de la part des distributeurs.
Les industriels, alors, derrière, il ne faut pas qu'ils perdent.
C'est vrai que les agriculteurs, à la FED de ceux-là, ils sont a priori contre, et on peut les comprendre.
Ben oui.
Parce qu'eux, ils n'ont pas envie que ça marche. Parce que ça retombe sur leur marge.
Tous les secteurs de
ben oui, les trois. Les industriels aussi.
Alors, on est avec Damien. Damien qui nous appelle de Vernon dans l'Eure et qui est technicien électronique. Bonjour Damien.
Bonjour
Damien.
Damien, qu'est-ce que vous pensez du panier anti-inflation et est-ce que lorsqu'il va arriver ce panier, est-ce que vous comptez en bénéficier?
Oui, bien sûr, je compte en bénéficier si les prix sont intéressants.
Ah bah a priori,
plus que les prix que j'achète aujourd'hui, que je peux trouver, comme on disait sur le plateau, chez Lidl, parce que bon, des pâtes, on en trouve déjà pas cher chez Lidl, alors comment faire encore mieux?
C'est ça.
Voilà.
Bonne question.
Et donc, nécessité aux gadgets, je pense que c'est nécessaire et c'est dommage pour certaines personnes, donc c'est très bien qu'on mette ça en place. Mmh. Mais moi, le mot qui me vient à l'esprit, c'est honteux, en fait. Ça me fait penser à la guerre, au communisme, où on a des bons pour venir chercher à manger.
Oui, c'est vrai que ça fait panier, ça fait caddie soviétique un peu, Damien, vous avez raison.
Et quand on sait que ce matin, j'ai entendu sur votre antenne qu'on parlait de l'inflation peut-être à 20% qui va arriver vers le mois de mars. Mmh. Qu'est-ce qu'on va faire? L'État nous dira, vous pouvez acheter tant de pâtes, vous pouvez acheter tant d'essence, on aura un QR code pour avoir le droit d'avoir des rations.
Peut-être pas en arriver là, mais effectivement.
Peut-être pas, mais bon, c'est le chemin qu'on prend pour l'instant. J'ai l'impression.
Ouais, mais Damien, vous le dites bien. Vous, par exemple, quand vous allez au supermarché, vous regardez les prix, manifestement. Et là, c'est quand même, quelque part, un cadeau de pouvoir acheter des produits moins chers.
Bah oui, mais c'est peut-être pas normal quand même que l'État doive se mêler de ce que j'ai le droit de manger ou pas manger. Parce
mais vous pourrez manger ce que vous voulez. En fait, Damien, vous pourrez manger.
On n'achète pas le tout.
T'as le droit de prendre les paquets de pâtes que tu veux.
Si aujourd'hui je suis pauvre et que je prends le panier anti-inflation, tout à l'heure il y avait une liste donnée au début de l'émission.
Ah mais vous êtes obligé de tout prendre, Damien.
Oui, mais j'ai pas le choix.
Pioche. Et ce sera pas uniquement du top budget dans le panier anti-inflation. Oui. C'est ça aussi qu'il faut noter.
C'est
qu'il y a des marques a priori de qualité. Il y a du bio, il y a de la viande rouge.
C'est ça la différence.
Cher, mais juste ça augmentera pas. Ça veut pas dire que c'est cheap. On n'aura pas les produits les plus cheap du.
C'est ce que dit en tout cas ce que veut le ministère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait tous, dans les supermarchés, il y a déjà des produits premier prix.
Oui.
Soit des prix premiers, mais bon, dont la qualité laisse en général à désirer. Là, ça sera pas le cas. Vous aurez par exemple des légumes bio. Je sais pas moi, c'est aujourd'hui, un avocat bio, c'est peut-être 2 euros parce que ça coûte très cher. Ça coûte cher, l'avocat. Là, vous aurez peut-être un avocat bio qui sera dans ce panier anti-inflation.
Et qui restera au même prix.
Qui sera 1 euro, par exemple, ou qui sera 1 euro 30, en tout cas, abordable.
Et évidemment, Damien, vous ne serez pas obligé d'acheter les 50 produits en une fois. C'est-à-dire que vous pourrez choisir à l'intérieur. Si vous voulez acheter que de la farine pas chère, vous achèterez de la farine pas chère, comme vous voulez.
Si je n'ai pas les moyens, j'achèterai les produits qui sont proposés.
C'est ça.
Vers d'autres produits. Si on me dit que la farine n'est pas dans le panier, je pourrais pas acheter de farine, même si j'en ai besoin et que j'en veux.
Une farine premier prix.
Dans le panier, t'as un poulet la belle rouge, t'en as un autre.
C'est
dégueulasse.
On est à la guerre. On va à l'épicerie, on prend ce qu'il y a dans l'épicerie, qu'on nous permet d'acheter. C'est à ça que ça fait penser.
Non, mais arrêtez, ça fait penser à ça. Mais moi, mes grands-parents qui ont connu ça me racontaient, c'était autre chose quand même. Faut arrêter.
Dit, ça fait penser, il dit pas, on est à la guerre.
Oui. Et moi, je dis non, moi, ça me fait pas penser à ça quand même. C'est comme deux choses qui sont légèrement différentes. Faut pas tout mélanger non plus.
Merci, Damien, en tout cas, d'avoir été avec nous et d'avoir fait dégoupiller Benjamin Morel. Yann.
Mais tout le temps, Benjamin Morel, c'est bizarre.
Muller, pardon.
Ouais. C'est Anthony Morel, il est.
C'est un invité qu'on a souvent, mais il est sociologue, ça n'a rien à voir. Yann nous appelle de Sainte-Maxime, dans le Var, et il est cadre chez Lidl, justement. Bonjour Yann.
Oui, bonjour Estelle, bonjour à l'équipe.
Bonjour.
En tant que cadre chez Lidl, c'est bien ou c'est pas bien ces paniers anti-inflation?
Alors c'est bien de le faire, mais pour pas que ça serve entre guillemets d'arme de concurrence entre un supermarché et un autre supermarché. Maintenant, je pense que tous les supermarchés, on a quand même lutté contre l'inflation en proposant de plus en plus de produits à des prix entre guillemets placés. On a des produits qui sont de toute façon chaque semaine en promotion. On a, nous, dans la société dans laquelle je suis, on a des cartes qui nous permettent d'avoir déjà des produits avec des promotions dessus également. Mm-hmm. Et puis les habitudes des gens, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, nous on le voit bien, les gens font leurs courses dans une enseigne, puis dans deux, puis dans trois, avec les catalogues qui leur sont envoyés, les distributions de mails et autres.
Ah bon,
en fait,
ils sont
les
pas
gens
fidèles.
Ont des habitudes. ont des habitudes d'achat et les gens ne se contentent pas de faire qu'une enseigne. Ah en fait, les gens vont acheter des produits en fonction des promotions aussi. Et donc, après, de dire qu'on est en temps de guerre parce qu'on propose 50 produits qui vont être bloqués, je pense que là, on est loin, on est très, très, très loin de ce qu'on peut vivre en temps de guerre quand même. Faut quand même pas abuser là-dessus. Maintenant, il faut le faire, oui. Qu'on ait 50 produits dans les magasins avec des produits bloqués, je pense que c'est une bonne chose, mais il faut pas que ce soit noyé dans le lot de promotions que l'on a actuellement. Tout dépend ce qu'on va en faire et tout dépend comment on va le baliser. Mais ça peut être quelque chose qui peut marcher, effectivement. Après, moi, je suis quand même dans un microcosme où je suis dans le golfe de Saint-Tropez, si vous voulez, les habitudes d'achat.
Il y a un Lidl à Saint-Tropez?
À côté, oui, à côté.
Ah bon on,
Il n'y en a pas qu'un. Il y a Saint-Maxime, il y a Cogolin, il y en a beaucoup.
Mais il y a des gens qui y vont.
Exactement. Ouais.
Parce qu'à Saint-Maxime, dedans.
Mais je vous dis, on a la chance.
Il n'y a pas que l'été, il y a l'hiver. On t'a dit que c'est branché Lidl maintenant, Estelle.
Mais je sais c'est branché Lidl.
Et est-ce qu'il y a des yaourts islandais alors? Faut se poser la question.
Alors on n'est plus du tout dans le hard discount. Hein. Nous on est vraiment maintenant plutôt supermarché que hard discounter.
Ouais, c'est vrai.
Pour avoir fait d'autres enseignes hard discounter, de toute façon, effectivement, comme disait Daniel tout à l'heure, le hard discount il est en France depuis les années 90. Donc les gens ont des habitudes d'achat. On a toujours le choix d'acheter moins cher. Maintenant Leclerc qui propose des produits Eco Plus, effectivement c'est pas cher. Mais comme disait Daniel toujours, c'est vraiment des produits de piètre qualité. Ça
oui, enfin, vous dites ça parce que vous êtes chez Lidl. Non, mais attendez, là, on va se détendre. Yann, vous pouvez pas critiquer la.
Vous
la
avez, vous savez dire que ça. Vous êtes devenu cher chez Lidl, ça vaut plus le coup de venir?
Non, du tout. Au contraire.
Ah oui, je me disais aussi.
je vais commencer à regarder les produits.
Alors, je voudrais juste qu'on prenne notre invité en ligne. C'est Lionel Mauguin qu'on a souvent dans Estelle Midi. On est ravis, bien sûr, d'être avec vous, Lionel Mauguin, journaliste au magazine 60 millions de consommateurs. Alors justement, on aime bien avoir l'avis de 60 millions de consommateurs parce que c'est toujours un avis sensé et objectif. Lionel Mauguin, c'est bien ou c'est pas bien ce panier anti-inflation ?
Eh ben on verra, parce qu'en fait c'est pas lancé, hein. C'est à partir du 1er mars que les distributeurs vont être invités à mettre en place ce panier. On ne sait pas qui le fera, Super U a l'air de s'être lancé. Lidl voudrait bien se lancer aussi, mais enfin le patron de Lidl a déjà dit de toute façon j'ai toutes mes références que je pourrais mettre dans le panier anti-inflation. En fait, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler ce panier puisque les distributeurs auront toute la liberté de mettre le nombre de produits qu'ils veulent, les marques qu'ils veulent, ils pourront substituer. Enfin voilà, donc ce sera très divers, ce sera juste une sorte de label un peu officiel. Le gouvernement est très insistant pour que les distributeurs s'y mettent, mais en réalité, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Nous, on va regarder ça de près pour savoir quels produits. Donc, on nous a dit que c'était des produits qui n'étaient pas forcément en premier prix, mais des produits qui nécessairement devaient afficher un rapport qualité-prix correct. Bon, et honnêtement, faut pas trop se faire d'illusions sur le fait que ça puisse aider les Français. Nous, on vient de sortir les chiffres de l'inflation ce matin.
Ouais.
Et l'impact surtout sur le budget des ménages. Et on se rend compte que désormais, il y a 45% des Français qui sont fragilisés par la hausse des prix. Mmh. Donc 25 points de plus qu'en mai dernier, quand on s'était parlé.
C'est énorme.
Ça fait 13 millions de foyers, 13 millions. Et il y en a 3 millions qui ne s'en sortent plus. Et 10 millions qui restent très très prudents quant à leurs dépenses. En fait, il n'y a qu'une minorité, 9% des Français, qui sont préservés par l'inflation des produits courants aujourd'hui. C'est assez terrible. Et ce que disait Monsieur Lidl est juste. Hein. Les gens sont obligés de faire plusieurs magasins pour payer le moins cher. Ils se promènent avec une liste de courses pour ne pas se laisser tenter. Ils ont renoncé, enfin voilà, ils utilisent moins la voiture.
Ils font pas les courses avec les enfants, ils font pas les courses à midi et demi avant d'avoir mangé. Oui. Enfin, tout ce genre d'astuces. Ouais.
C'est très dur et on a les chiffres que de 2023. Hein, pour nous, on va dépenser 800 euros de plus qu'en 2021.
Donc, c'est énorme.
Pour les mêmes courses. Hein.
Bien sûr.
Et donc, voilà, il faudra que le panier anti-inflation sera un des outils. On verra bien ce que font les distributeurs. On a essayé de voir aussi si les distributeurs faisaient un effort sur leur marge. Et en réalité, ils continuent à faire leur métier, mais il n'y a pas spécialement un effort qui est fait. Donc les consommateurs sont
lésés.
Voilà, subissent la situation.
Oui. Mais pour bien comprendre, Lionel Mauguin, par exemple, je prends un yaourt. Ça veut dire que dans le panier anti-inflation, on va me dire il y a un yaourt nature brassé, par exemple. Ce yaourt, ce sera le même chez Casino, Carrefour, Lidl, ou alors chaque magasin pourra choisir le yaourt qu'il veut dans le panier inflation.
chaque magasin pourra mettre un yaourt s'il le veut. Et en fait, ils ont toute liberté de constituer un panier comme ils le souhaitent. Il faudra juste mettre une estampille. Et ça ne durera que 3 mois, a priori. Hein.
Ouais. Donc, et liberté de prix également. Hein. Ouais. Liberté de prix également.
Ah, le principe.
Le principe, c'est évidemment, si t'as un yaourt brassé qui est vendu, je sais pas, moi, 30 centimes, tu vas pas le mettre à 40 centimes dans ton panier anti-inflation. Tu vas, mais le prix, ça sera par exemple 20 centimes dans un supermarché et 25 centimes dans l'autre. Après, moi, chacun fait ce qu'il veut. Hein.
Je voulais demander à monsieur Mauguin, quelle est la part de la consommation des Français uniquement dans les supermarchés? Parce que vous avez les petits marchés de village, les marchés de quartier, vous avez les petits commerçants, etc. Donc ceux-là, ils sont complètement à part. Donc quelle est la part de la consommation dans les supermarchés?
Alors, c'est compliqué. Nous, on a tous les chiffres, en fait. Proximité, hypermarché, supermarché, et même discount. On a les chiffres de 10 000 magasins, 300 000 références. Donc, après, les parts de marché, c'est plus des choses qui appartiennent aux professionnels. Nous, ce qu'on regarde, c'est les prix pour les consommateurs qui, heureusement, ont le choix.
Mais
pour répondre en partie à votre question, ce qu'on constate, c'est que les gens fréquentent davantage les magasins de proximité parce qu'ils prennent moins leur voiture, tout simplement aussi.
C'est ça.
Et donc, mais par contre, c'est vrai que on fait. Et puis il y a Action. On ne parle jamais d'Action, mais Action, le discounter hollandais qui fait un carton en France.
Ouais, notamment et sur les produits ménagers, incroyable.
Exactement, l'hygiène, beauté, mais aussi l'alimentaire, et qui vient concurrencer sévèrement les autres enseignes sur les prix. Et bon, j'ai envie de dire heureusement, parce que sinon, on s'en sortirait vraiment, vraiment plus. Et encore une fois, il y a 3 millions de ménages maintenant qui s'en sortent.
Les petits commerçants ne vont pas être lésés par ces mesures?
Les petits commerçants, ils misent sur la qualité et les gens sont assez lucides pour faire des arbitrages. On mange peut-être moins de viande, mais on mangera une viande de qualité. Les arbitrages, ils sont sur la qualité. On a réduit la quantité même de l'alimentation. Et il y a un chiffre terrible dans notre étude, c'est que les 18-35 ans ne mangent plus tous les midis. Il y a 30% de 18-35 ans qui ne mangent pas tous les déjeuners. Non seulement on arbitre sur le choix des produits, mais aussi sur le choix des repas maintenant pour les plus jeunes.
Mais merci
ça
beaucoup.
Ça veut pas dire qu'on se fait plaisir. On essaie de garder cette notion de plaisir, heureusement, parce que
en se privant sur d'autres choses. Merci beaucoup Lionel Mauguin, en tout cas, d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. Petite précision, Rémi.
Oui, pour répondre à la question de Robert, je crois, 70% de l'alimentation en France est achetée en supermarché.
D'accord.
Allez, on va terminer avec Laurent qui nous appelle de Ruffec dans l'Indre. Bonjour Laurent.
Bonjour Estelle, bonjour Rémi, bonjour à vos invités.
Et Laurent, bonjour. Vous êtes agriculteur et on a peur pour les agriculteurs avec ce panier anti-inflation.
Évidemment, les dindons de la farce, ça va être encore nous, c'est évident. Si on veut descendre le prix, ça va être tellement facile de taper sur le prix de la production des éleveurs. Moi, je suis éleveur de vaches. Ça fait depuis 2 ans qu'enfin, on arrive à vendre, à vivre de nos produits décemment. Ça faisait 30 ans que ça ne marchait pas, heureusement qu'on avait des primes, que tout le monde nous reproche. Mais dans les campagnes, pourquoi il y a de moins en moins d'agriculteurs avec des vaches? Parce qu'ils arrêtent tous. Parce que c'était à cause de ça. Là, on fait des installations avec des éleveurs, des choses comme ça. Moi, je suis complètement d'accord avec le panier. C'est pas ça, je suis aussi consommateur, évidemment. Mais à un moment donné, est-ce qu'on pourrait pas dire, sur ces types de produits-là, que les distributeurs, les industriels, qui marchent à coût constant, à coût réduit, au prix de revient, que tout le monde fasse ses efforts, parce qu'autrement, ça va être tellement facile de dire, t'as ton kilo de viande, de ta vache, je suis obligé de le baisser. Et puis voilà, on tombera dans ce qu'on a vécu pendant 30 ans. Donc non-stop, il faut faire attention à ça, que Leclerc, que Auchan, ils fassent de l'effort sur leur marge, et qui travaillent, comme je viens de le dire, qui travaillent à coût prix de revient, et les industriels aussi, parce que les industriels, les Danone, j'en passais des meilleurs, les Charal, ça, tout le monde fait ses efforts.
C'est ça, et pas seulement les agriculteurs. Merci Laurent pour ce coup de gueule. Merci à Yann également d'avoir appelé. On va voir donc ce que vous en pensez de ce panier anti-inflation. Gadget ou nécessité, Rémi?
Il y a encore du boulot pour convaincre. 71% de ceux qui ont voté sur nos réseaux sociaux estiment que c'est un gadget.
Oui. Voilà, donc c'est quand même une très large majorité. Dans un instant, le zapping, le meilleur des RMC. On se demandera s'il faut dire merci à la CGT, puisque la CGT a débranché la moitié des radars en Loire-Atlantique, par exemple, pour lutter contre la réforme des retraites. Faut-il interdire le racolage devant les restaurants? C'est ce qui va se passer à Montpellier. Et puis, doit-on supprimer les certificats médicaux? Ça, on posera la question à Robert Sebag. À tout de suite sur RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Nous allons commencer avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. Faut-il remercier la CGT, très opposée à la réforme des retraites? Le syndicat de Philippe Martinez a débranché la moitié des radars de Loire-Atlantique ces derniers jours. Une action qui réjouit particulièrement le chef d'entreprise DGG, Mehdi Guézard.
C'est un kiff pour c'est franchement la CGT qui non franchement c'est
CGT
un kiff.
Énergie.
Non mais c'est un kiff.
Merci
la CGT, c'est fou à dire.
Je regardez sais cette
va,
vidéo. Hein.
Voilà, je sais que ça va rester longtemps dans les tuyaux, mais voilà, bah là ils peuvent faire parler d'eux, c'est bien, c'est
ils veulent vraiment être populaires là.
C'est du buzz, ça marche. Bravo à eux. Franchement, c'est un beau coup de communication. C'est un très beau coup de communication. C'est mieux que de brûler des pneus au milieu d'un rond-point. Bah, c'est ça plus de on va dire de punch que ça.
Et puis s'il y a un mec qui meurt parce qu'il est allé trop vite.
Merci la CGT. Ouais.
C'est bon, mais dis là, franchement, je comprends pas quoi. L'illégalité qui serait une bonne chose, ok, super.
Bonjour Robert Sebag, je vous ai vu pester.
Mais bonjour la démagogie, enfin je trouve ça honteux parce que il y a le risque, la sécurité routière ça existe aussi, c'est un peu facile de dire ça. Ça c'est aller dans le sens du poil des gens qui en ont marre des radars, la pompe à fric, etc. Enfin les radars c'est quand même utile. Non, je trouve ça, c'est se faire de la pub sur quelque chose d'aussi démagogique, c'est honteux et c'est pas la gloire de la CGT.
Oui, enfin je pense qu'il y a énormément de Français qui partagent l'avis de Mehdi Guézard là-dessus.
Oui, mais c'est pas parce que les gens
c'est pas parce qu'il y a 10 personnes qui vont être d'accord avec lui qui sont raison.
C'est pas 10 personnes,
c'est
des millions.
Oui, c'est une erreur.
Moi, je trouve que la CGT devrait aller plus loin et couper l'électricité de certains hôpitaux parce que ça ferait bien parler, ça ferait un bon coup de buzz. Bon, il y aurait quand même des centaines de milliers de morts, mais au moins on en parlerait beaucoup. C'est la même logique, je suis désolé. Le radar, certes, pompe à fric, certes, l'État s'en met plein les poches, etc. Mais le radar, c'est aussi ce qui fait que moi, je roule à 130 et je roule pas à 135. Et je fais très attention. Et
quand 135, vous n'êtes pas flashé, vous le savez.
Oui, enfin, vous voyez ce que je veux
134.
Dire. Ouais. Bah, 135.
Non, c'est jusqu'à 137.
Ok, jusque 137. Moi, je trouve que c'est dangereux.
Oui.
Moi, je trouve que c'est dangereux.
Apolline Matin, ce matin sur RMC, faut-il interdire le racolage devant les restaurants? Dans certaines villes, des restaurateurs embauchent des racoleurs afin de vous inciter à entrer pour déjeuner ou boire un verre. À Montpellier, c'est désormais une pratique interdite et verbalisable, comme l'expliquait le maire adjoint de Montpellier ce matin sur RMC.
Nous avons des plaintes de riverains, nous avons des pétitions parce que il y a des tensions entre restaurateurs, entre personnes qui se livrent à ce racolage commercial. La police municipale, effectivement, au besoin, elle verbalisera. Et si jamais il y a une accumulation de verbalisation, eh bien nous demanderons à la préfecture une fermeture administrative.
Daniel, ça vous paraît logique, ça, de faire des amendes pour racolage au restaurant?
Attends, mais qu'on comprenne bien. Ouais. On est bien en train de parler des gars qui, dans les villes touristiques, sont devant les restos disant « viens manger chez moi, c'est bon, viens manger chez moi ». Dans toutes les villes où on part en vacances, globalement, on voit ce genre de choses-là, on est d'accord. Oui. Surtout dans le sud de l'Europe, ça se voit beaucoup.
Oui, enfin, même à Place Saint-Michel à Paris. Enfin,
À Place Saint-Michel, il y en a beaucoup.
Ouais. Je suis d'accord. Mais à Paris, je suis pas un touriste.
Oui, c'est vrai.
Donc voilà. Et c'est un problème ça?
Bah apparemment oui, parce que ça va être verbalisable.
C'est illégal. Enfin, ça c'était illégal déjà.
Comment ça c'est illégal?
Ah oui, le racolage devant les restaurants.
T'as pas le droit de dire mon resto est meilleur que les autres.
Tu n'as pas le droit de racoler.
Et pourquoi c'est un problème? Je comprends pas. Pourquoi c'est un problème? On a vraiment besoin de perdre du temps à verbaliser pour ça, enfin ou à.
Je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'on est dans une société où tout est verbalisable désormais, Benjamin Muller. Alors, en plus, a priori, c'est pas les meilleurs restos. Parce que normalement, quand t'as besoin de racoler devant ta porte, c'est que
quand t'as un gars qui est déguisé en plat à couscous ou en frites géantes, c'est pas signe de gage de qualité. Je suis pas sûr que devant chez Guy Savoie, il ait besoin de se déguiser.
Les restos, il y a le dépliant à l'entrée là, avec toutes les photos de bouffe et tout.
Généralement, c'est
pas bon. Quand c'est écrit en plusieurs langues, ça me déprime. C'est-à-dire que quand c'est écrit en plusieurs langues, avec les photos, c'est les photos un peu vieillies. Et là, tu dis.
Et quand il y a 15 plats proposés, c'est suspect aussi.
Surtout quand il y en a 35.
Voilà, exactement.
Mais alors, le plus suspect, c'est quand il n'y a personne dans le resto. Tu vois, c'est impossible.
J'avais vu en été un restaurant russe, en plein été, donc il faisait très très chaud. Et devant, il y avait un gars qui était là, habillé avec des fourrures, pour attirer les gens. Il était habillé en russe avec la fourrure et tout, avec cette chaleur.
Avec accent.
On ne peut pas tout interdire. Enfin, ça suffit, la verbalisation.
Non, parce que surtout, voilà, encore une fois, dès qu'on voit un racoleur devant un restaurant, on sait que c'est un mauvais restaurant, donc ça nous aide à pas y aller. Et ça, c'est, voilà. Je suis un peu déçu que, voilà, de ne plus avoir cet indicateur.
Dans ce cas, il faut interdire le Père Noël devant les galeries Lafayette. Ah non, tout le mois. Non, mais c'est la même logique. C'est pareil, c'est-à-dire parce que c'est pour racoler, c'est pour que ce soit sympa. Et donc...
Le Père Noël ne racole pas?
Ça va pas bien, déjà, Manuel. On va avec les enfants. On va avec les enfants. Voilà, donc
le Père Noël ne racole pas. Bon. Charles Matin, ce matin sur RMC, faut-il supprimer les certificats médicaux ? Hier, le ministre de la Santé a annoncé des mesures afin d'alléger le quotidien des médecins généralistes, notamment en supprimant l'obligation de présenter un certificat médical lors de l'inscription à une activité sportive. Une bonne mesure pour Jérôme Marty, le doc DGG.
Normalement, un seul certificat devrait pouvoir suffire, mais comme les fédérations, les clubs, etc., ne se parlent pas et qu'il n'y a pas d'interface entre eux, ben à chaque fois que vous allez effectivement vous inscrire pour une course, ben l'organisateur va vous demander un certificat médical pour cette course, et donc on va en refaire à l'envi. Moi, il m'arrive de faire pour la même personne au cours de l'année 10 certificats de sport. Si l'on tient compte qu'une consultation fait environ 20 minutes, le fait de remplir comme ça une dizaine ou une quinzaine de certificats, ça vous fait perdre, oui, une ou deux consultations sur la semaine, et avec la difficulté que les Français ont pour trouver un médecin, on comprend que si on peut libérer du temps, c'est important.
Robert Sebag, vous êtes médecin, est-ce que vous trouvez ça bien de supprimer les certificats médicaux pour le sport?
En partie, Jérôme Marty en partie a raison, parce que c'est vrai que systématiquement, pour la moindre activité, par contre, sur une activité générale, pour un enfant qui rentre dans un club de sport, je veux dire, le médecin se mouille. Et on est souvent extrêmement gêné parce qu'il peut arriver quelque chose, si vous voulez. Vous dites, je sous-signe et certifie docteur X que l'État ne le contre-indique pas à la pratique du sport et qu'il se passe quelque chose, vous êtes quelque part responsable. Et donc, aujourd'hui, effectivement, les fédérations sportives, elles ouvrent le parapluie. Elles ouvrent le parapluie. Et là-dessus, si vous voulez, alors, effectivement, ça prend beaucoup de temps de la part des médecins. Ça prend beaucoup de temps de la part des médecins. Si vous le refusez.
Pour ça.
Oui, non, mais si gratuit, vous refusez. Comme les arrêts de travail, vous pouvez parfois refuser. Il va en voir un, deux, trois, et le troisième va dire, écoutez, voilà, je vous fais le certificat. C'est pas anodin. Alors, les supprimer complètement, ça me paraît effectivement risqué, mais peut-être pas les multiplier pour chaque activité sportive.
Non, question, Robert.
Oui.
Quand au début d'année, t'inscris ton enfant dans un club de sport, souvent le certificat médical est demandé.
Oui.
La visite, voilà. Il y a ceux qui se le font gratter vite fait par un médecin qu'ils connaissent sans visite.
Voilà.
Ça, c'est quand t'es pas très sérieux, parce que normalement, il faut faire la visite. Mais ma question, c'est, est-ce que quand tu vas faire la petite visite, que tu fais l'examen rapide et tout, est-ce que c'est vraiment un examen efficace pour savoir si ton môme peut avoir un problème sérieux derrière?
On peut pas tout détecter, on va pas couper le gamin en tranches, mais on va voir un minimum de choses. Est-ce qu'il a une tachycardie? Est-ce qu'il a eu des problèmes? Il y a eu des problèmes au moment de l'accouchement? Est-ce qu'il y a des bizarreries dans son comportement? Un certain nombre de questions.
Donc l'examen vaut quand même quelque chose, ça.
Moi,
vaut
je
le coup.
Je pense qu'il faut pas passer outre, parce qu'il y a des malformations chez les enfants et qui vont se manifester pendant une
épreuve sportive. Oui, mais ça, est-ce qu'elles vont se voir dans le petit examen que tu vas faire rapide comme
ça? Des coups de cœur,
déjà, tu vois. Un certain nombre de questions qui vont peut-être t'orienter.
On écarte un certain nombre de
risques. Mais je veux dire, c'est très difficile de passer outre.
Vous avez trois enfants, Benjamin Muller. Alors, s'ils font deux sports différents chacun, ça va être une
bonne. Ce qui est globalement le cas. Oui. Et alors, moi, c'est le conseil de notre pédiatre. Il nous dit tous les ans un rendez-vous, un grand rendez-vous, le rendez-vous qui dure trois quarts d'heure où il fait le méga check-up et tout, qui me rassure beaucoup. Et en revanche, pour les trucs sportifs, du coup, ça dure cinq minutes. Et généralement, il sait qu'ils sont en forme. Je te dis quoi. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a pas mal de fédérations qui ont déjà allégé ça. Moi, je vais vous parler de ce que je connais, handball et athlétisme. Maintenant, c'est un certificat est valable pour 3 ans.
Ah, moi, c'est 2 ans pour le ping-pong.
Eh ben, ça dépend des fédés, en fait. Mais typiquement, si vous faites à l'athlétisme et que vous faites 3 marathons par an, 4 marathons, la plupart des marathons, effectivement, pour des histoires d'assurance, vont vous demander à vous un certificat médical. Et je crois que pour un marathon, ils ont plutôt raison.
Vous savez, Estelle, c'est la notion de médecin de famille. C'est la notion de médecin de famille qui est primordiale.
Ça n'existe plus, connaît. Robert, ça.
Si,
malheureusement, ça. Effectivement, il y en a moins.
De moins
c'est
en
lui
moins.
Qui connaît la famille, qui connaît les enfants, qui les a vus grandir, qui a assisté à l'accouchement, enfin, un certain nombre de choses. Malheureusement, ça se perd. Et le médecin qui ne connaît pas, qui va signer comme ça un certificat, il prend quelque part un risque.
Oui, parce que là, par exemple, vous inscrivez votre enfant dans un club de sport. Il lui arrive un gros pépin. Qui est responsable s'il n'y a plus de certificat?
Ah ben là la question d'abord on va poser, puisque c'est obligatoire normalement, il y a des fédérations
mais
qui
là,
veulent
plus. Mais là c'est plus obligatoire, qu'est-ce qu'on fait?
Oui, alors effectivement, moi je pense que ça doit rester malgré tout obligatoire. Ça permet au moins des consultations, ça permet au moins de vérifier un certain nombre de choses et de pas passer outre une pathologie qui peut survenir.
Ouais, et si c'est supprimé pour certains sports, moi je suis dirigeant de club, je demande une attestation sur l'honneur aux parents. Mon enfant est
en santé. Il y a ça tous les ans.
Mais attestation sur l'honneur, t'imagines, qu'est-ce que t'en sais que t'es pas médecin, que ton enfant est en bonne santé?
Je me mets à la place du dirigeant de club. Imagine donc demain, on supprime l'examen obligatoire.
Je suis d'accord, évidemment.
Moi, je vais demander une attestation sur l'honneur aux parents.
C'est exactement ce que
mon enfant est en bonne santé. J'atteste qu'il peut pratiquer ce sport. Parce que si jamais il y a un accident.
On n'est pas
maître. Mais je le questionnaire. Si je suis le dirigeant du club.
Estelle, le questionnaire t'a dit si t'as fait ton rendez-vous médical il y a un an. T'as pas besoin d'en refaire un.
Parce que. Oui.
Et en revanche, tu vas remplir quelque chose pour dire que dans l'année, il y a pas eu de problème majeur, que à ta connaissance, il y a pas eu une tachycardie justement inquiétante ou chose comme ça, et que il est suivi par un médecin par ailleurs, etc. Ah. C'est une manière de se protéger un petit peu. Et accessoirement, ça renvoie quand même à l'idée aux parents que ah oui, c'est vrai qu'il y avait quand même eu cette petite puce à l'oreille. Je vais peut-être retourner voir le médecin. Quand il s'agit des enfants, les gens font quand même attention.
Bah faut espérer. RMC Sport. Hier soir, victoire historique au Vélodrome de l'OM face au Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Coupe de France. Victoire 2-1, un match que vous avez pu vivre en direct sur RMC avec évidemment Jeannot Rességuet au commentaire. Écoutez.
Alexis Sanchez pour frapper le pénalty. Et la course nulle de la part du Chilien. La frappe contre pied. 1-0 pour l'Olympique de Marseille face au PSG dans ce huitième de finale de la Coupe de France. Sanchez, le crochet, la frappe croisée. Elle est contrée par Sergio Ramos. La frappe est but. Mon Dieu, quelle précision de la part de l'international ukrainien.
Et la défaite du Paris Saint-Germain une semaine avant le match face au Bayern Munich, c'est inquiétant quand même, Daniel Riolo. Alors qu'on se disait comme chaque année, tiens, est-ce que c'était l'année du Paris Saint-Germain?
Eh ben non, parce que je pense que cette année, vous ne vous l'êtes pas dit.
Non, c'est vrai.
Eh ben voilà. Donc vous avez la réponse à la question.
Oui, mais d'habitude, je me le dis et ce n'est pas l'année. Donc je me suis dit, je ne me le dis pas, donc c'est peut-être l'année.
Je crois qu'on est passé au-delà de l'inquiétude. C'est qu'il y a très peu d'espoir et je dirais même dans le club une forme de résignation. Ce ne sera pas la bonne année. Mais ça, on le savait dès le mois d'août.
Mais est-ce que c'est pas parce que justement, on se dit que ce ne sera pas la bonne année, que ce sera la bonne année? Vous voyez mon raisonnement ou pas? Parce que là, tout d'un coup, ils ont un statut totalement d'outsider. D'habitude, moi, on dit toujours que c'est mon favori, mais ils sont outsider.
Je veux bien croire au côté irrationnel dans le sport, mais pas sur 7 matchs. Je veux bien sur un match. Oui. Mais sur 7, ça va faire beaucoup quand même.
Voilà, ce sera 2 contre le Bayern, quoi, du coup.
Ah, d'accord.
Et Mbappé sera peut-être remis au match.
Il en reste quand même beaucoup derrière. Oui, mais avant, il y a le match aller déjà.
Oui, et puis c'est à Munich.
Robert, je sais que vous êtes totalement fan du Paris Saint-Germain. Je sens que vous êtes extrêmement déçu par la prestation de vos joueurs.
Je n'irai pas au 8e de finale. Je pense, comme Daniel, que ça fait beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Là, il y a eu la défaite contre Reims, ça démarre pas. Et c'est pas simplement la présence d'Mbappé ou pas. On les a vus hier, il n'y a plus de collectif. Je pense que Galtier doit commencer à paniquer parce que, à mon avis, il ne va pas.
Je crois qu'il a paniqué dès qu'il a signé au club.
Enfin, comme tous les entraîneurs,
il savait que le costume était trop grand. Il a fait du Excel.
Moi, je ne les vois pas qualifiés pour les quarts de finale, malheureusement.
Oh là là, et vous, Benjamin Muller?
Moi, je vois une bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça relance un tout petit peu l'intérêt du championnat de France. Bon, là, c'était la Coupe, mais et c'est quand même vrai que ça faisait quand même quelques années que moi, je suivais ça.
Il y a eu Lille, il y a 3 ans.
Oui, d'accord. Enfin, globalement, c'est un peu chiant, je trouve, France, parce que le PSG écrase tout. Il y a quand même une année, alors c'était il y a 5-6 ans, où c'était coup de 6-0 tous les matchs. Moi, à chaque fois que j'allais au parc, alors j'y allais, j'étais content, j'emmenais les enfants et tout. Il y avait 6-0, au bout d'un quart d'heure, bon, tu savais que c'était fini, donc tu t'ennuies un peu dans le stade. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose que ça relance un peu.
Mais la première mi-temps de Marseille, exceptionnelle.
Exactement.
Ah, formidable.
Ça fait plaisir de vibrer dans un match avec deux clubs français, quand même. Le face-à-face d'Apolline de Malherbe ce matin. Éric Zemmour et Sylvain Boulet pour le gouvernement. L'ex-candidat à la présidentielle a déclaré ce matin sur RMC soutenir la réforme des retraites du gouvernement. Un soutien peut-être un peu démago. Écoutez.
Je la voterai parce que, d'abord, c'est ma réforme. C'est-à-dire que moi, j'avais dit 64 ans et j'avais dit un index pour les seniors, vous savez, pour qu'on ne puisse plus virer les gens entre 55 et 64 ans. Cette mesure, vous comprenez, c'est une mesure d'urgence. C'est parce que, d'abord, nous croulons sous les dettes, nous croulons sous les déficits, mais aussi parce que le système de répartition ne peut plus tenir, puisque nous faisons beaucoup moins d'enfants qu'avant, et ce n'est pas possible. Donc, cette mesure-là, elle est indispensable.
Emmanuel Macron aurait repris le programme d'Éric Zemmour.
Bien sûr. J'adore quand il dit moi je vais la voter cette réforme.
Oui,
vous allez la voter, c'est-à-dire sur Twitter, peut-être en vote de Rémi. Moi je trouve, je vais dire la même chose qu'il dit sur Mélenchon il y a 2 jours, je le trouve plus audible. Je trouve que là, il s'est passé trop de choses.
On l'entend peu. Hein.
Oui, non, mais je veux dire, même là, quand il prend la parole, il y a un an de ça, il faisait une interview le matin. Bon, on s'était repris partout, ça faisait des débats, etc. Ah oui. Et là, on sent qu'il y a besoin d'un renouveau dans l'opposition parce que Zemmour comme Mélenchon, je trouve que ça manque de porte-voix un peu fort.
Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'opposition, c'est que des extrémistes. Donc, à un moment, forcément, la situation du pays, elle est terrible. Parce que tu vas toujours vers, t'étais obligé de te dire Macron faute de mieux.
C'est le baiser de la mort hein, pour Macron.
Oui, c'est ça, il doit être très content. Ce matin, je pense qu'il n'avait pas besoin de ça. Emmanuel Macron, dans un instant, il y aura la minute conso avec Paul Lassen. On vous dira comment racheter des trimestres pour partir plus tôt à la retraite. C'est d'actualité. À tout de suite sur RMC dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
13h48 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et on est très 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 content d'être avec vous jusqu'à 15h et d'être également avec Paul Lassène. C'est la Minute Conso, c'est parti.
RMC, Estelle Midi,
la Minute Conso.
Et Paul, avec vous, on va parler retraite.
Pour changer.
La majorité, mais oui, des Français sont contre le nouvel âge légal de départ à 64 ans, mais il existe une solution pour partir plus tôt à la retraite. Cette solution, c'est de racheter des trimestres. Alors, ce serait bien si c'était simple. Malheureusement, ça ne l'est pas.
Oui, alors, on le sait peu, hein, mais aujourd'hui, vous l'avez dit, on peut racheter des trimestres. Alors déjà, il faut savoir que c'est plafonné. Vous pouvez racheter jusqu'à 12 trimestres, soit 3 années de cotisation, mais tout le monde ne peut pas le faire. Et pour les plus chanceux qui peuvent, c'est une véritable usine à gaz. Alors, écoutez bien, prenez un stylo, une feuille et prenez des notes. Alors, premier cas, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez revendre vos trimestres si vous avez effectué un stage pendant vos études supérieures. Mais à une condition, c'est que vous faites la demande de rachat dans les 2 ans qui suivent la fin du stage. C'est-à-dire qu'il faut déjà penser quand vous êtes...
À 19 ans, par exemple, t'as pas le stage à 17, vous... à 19, tu rachètes.
Ouais. Voilà, okay, 19 maximum. Autre cas, si vous avez effectué des études supérieures, dès lors qu'elles ont donné lieu à un diplôme, vous avez la possibilité de racheter. Si vous avez, par exemple, une licence, vous rachetez 9 trimestres.
D'accord.
Et c'est possible. Mais, attention, là aussi... si vous n'avez pas validé, typiquement avant le DUG existait. Donc par exemple, vous avez fait 2 ans.
Moi j'ai eu un DUG.
Bah, c'est fini pour vous. Ah. C'est pas possible parce que le DUG n'existe plus aujourd'hui.
Mais bravo
pour le DUG quand même, comme dit Benjamin.
Oui, j'ai fait un DUT également, mais je crois que ça n'existe plus.
Ça n'existe plus non plus. Tes diplômes ne valent plus rien.
Tu en dois peut-être même.
Estelle, des jobs d'été pendant vos années d'études.
Ah oui, moi une tonne.
Ça vaut.
Vous êtes beaucoup autour de la.
Non mais ça compte déjà ça.
Ça dépend.
Ça dépend des cas, mais globalement, vous pouvez racheter vos trimestres. C'est-à-dire, vous avez travaillé...
McDo, voilà.
McDo, exemple, McDo, ça coûte combien
au McDo. Oh, j'y viens.
Attends, oh là là, mais Robert, il me flingue la chronique, là.
Voilà, si vous avez travaillé pendant vos études, typiquement 3 mois pendant l'été, quand les études sont assez longues, vous pouvez racheter un trimestre. Mais avec tous ces critères, rares sont ceux qui n'ont pas la possibilité, évidemment, de racheter tous ces trimestres à tes souhaits, Daniel.
Alors donc, ça coûte combien si on peut racheter 12 trimestres?
Eh bien, là aussi, il n'y a pas de réponse définitive. Ça dépend. Le prix d'un trimestre, eh bien, il varie selon votre âge et votre salaire au moment du rachat. Il faut savoir que plus vous êtes jeune, moins vous payez. À l'inverse, plus vous vous rapprochez de la retraite et plus vous déboursez d'argent. Ainsi, selon l'âge et le revenu, le coût d'un trimestre varie d'un peu plus de 1000 euros pour une personne de 20 ans avec un faible revenu, à un peu plus de 6000 euros pour une personne d'une soixantaine d'années et qui gagne plus de 44 000 euros
par trimestre.
Par an.
Ah oui.
Par trimestre.
Oui, c'est ça.
C'est 6 000 euros pour 3 mois, donc ça fait 2 000 euros le mois.
2 000 euros par mois.
Bah,
typiquement, si vous remplissez tout.
C'est en fait, c'est pour se barrer 3 mois avant la retraite.
Ouais.
Non, vous allez voir.
Et tu payes 6 000.
Ça vaut pas le coup quand même.
Bah non.
C'est pas rentable.
Typiquement, vous êtes au pire du seuil, vous voulez racheter vos 12 trimestres, eh bien ça peut dépasser les 70 000 euros quand même.
Ouais, bah donc c'est non.
C'est quoi 12 trimestres?
Bah 12 trimestres, c'est 3 ans.
3 ans?
Ouais. Mais tu payes 70 000 pour partir 3 ans avant.
Mais en plus,
c'est rentable ça?
Bah justement, c'est la question.
Alors, on peut dire que c'est un bon investissement, Daniel, mais si tu en as les moyens.
Il est blindé.
Je vous donne un exemple. Vous approchez de la retraite, vous avez 64 ans.
J'en suis loin quand même.
Il peut vous rester donc 12 trimestres à cotiser pour partir à taux plein, par exemple avec 3 000 euros. Si à 64 ans, 3 ans avant de votre départ à la retraite, vous rachetez vos trimestres, vos trimestres, vous allez subir une décote si vous partez à la retraite, vous ne toucherez que 2600 au lieu de 3000.
Oui.
Si vous rachetez vos 12 trimestres et donc que vous avez vos 3000 euros par mois, vous rentabilisez en 15 ans.
Ah bah non,
Si
on meurt avant.
Donc à 70 ans.
C'est un pari sur l'avenir.
Voilà.
Et ça va pas faire un carton.
Mais il y a une précision importante, vous pouvez payer en plusieurs fois, il faut pas forcément payer cash.
Sans frais.
Et c'est déductible des revenus imposables.
Ah, ça, c'est bien, ça.
Ouais.
Ah non, ça, c'est pas mal. Donc,
est-ce qu'on peut les prendre en viager?
Non, mais il faut vraiment réfléchir. Alors, ce qui est fou, c'est que personne ne sait comment racheter des trimestres, quand même.
Oui, et c'est une des pistes sur laquelle veut avancer le gouvernement. Olivier Dussopt, la semaine dernière, a lui-même reconnu qu'il fallait mieux communiquer et aussi assouplir la mesure. Alors, non seulement pour calmer la grogne de certains et leur permettre de partir plus tôt à la retraite ou avec une meilleure pension, mais c'est aussi un moyen... bien sûr, de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Mais attention, simplifier, ça ne veut pas dire que le panel va s'ouvrir. C'est-à-dire que vous devrez toujours remplir ces conditions-là et pas autrement. C'est-à-dire qu'autour de la table, a priori, pas grand monde pourra racheter deux trimestres. En tout cas, pas pour le moment. Aujourd'hui, il faut mieux communiquer, martèle le gouvernement. Sachez, par ailleurs, qu'il est possible de bénéficier d'un bonus de l'État pour le rachat de trimestres lié à des études supérieures. Cette mesure, elle peut permettre d'acquérir des trimestres presque sans rien débourser, à condition de s'y prendre suffisamment tôt. Encore une contrainte, ce bonus n'est accordé qu'à condition de racheter ses trimestres dans les 10 ans maximum qui suivent la fin des études. Donc, bon courage.
C'est-à-dire qu'il faut y penser à 25 ans.
Il faut le savoir et il faut y penser.
Enfin, on va quand même y réfléchir à ce rachat de trimestres, si ça peut permettre de partir plus tôt. Qu'est-ce qu'il y a,
Robert ? En plus, le nombre de trimestres intervient sur le taux de retraite, mais pas du tout sur l'âge légal. Vous pouvez avoir tous vos trimestres,
absolument,
mais vous ne pouvez pas partir avant 64 ans.
Exactement. Merci Robert pour cette précision. Dans un instant, vous savez, nous sommes à 5 jours de la Saint-Valentin, on parlera de couple et de ces un tiers des Français qui vivent en couple, mais pas sous le même toit. Est-ce que vivre séparé, c'est la clé du bonheur ? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. On attend tous vos témoignages également sur l'appli RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.